Salut, c'est le PodMag numéro 9. Bonjour à vous, auditeurs et podcasteurs francophones. Voici un nouveau numéro du PodMag, le magazine du podcasting. Cette semaine, les médias se sont réveillés. Vous avez pu écouter sur le PodMag l'émission de Radio-Canada « Les affaires et la vie » qui a consacré 15 minutes à expliquer le podcasting. Mercredi, c'était France Inter qui s'y est collé vers 20h10. Alors serait-ce le commencement du podcasting grand public ? C'est peut-être une des questions à laquelle répondra Frédéric Miseret, le directeur aux nouvelles technologies du groupe RTL que nous allons recevoir tout à l'heure. Mais avant de passer au sommaire, voici un petit message laissé sur le répondeur.
Salut, vous êtes sur le répondeur de France Podcast. Vous pouvez laisser vos commentaires audio sur ce répondeur. Bonne journée.
Ouais, salut. Philippe d'Orléans. Je voulais parler de quelque chose à propos de du France Podcast numéro 8. Tu as dit dans la conversation téléphonique que tu as eue que ça allait se développer en France au cours du mois de septembre. Je me pose la question, est-ce que c'est vrai? Parce que vu les bandes passantes qui sont limitées, enfin les bandes passantes qui doivent être utilisées pour transmettre des podcasts, et vu le retard de la France dans tout ce domaine, je me demande si vraiment on va progresser dans ce domaine. Parce que les prix pratiqués, le retard français dans tout le domaine d'Internet et des nouvelles technologies, ça va être un frein à l'évolution du podcasting.
En ce qui concerne la bande passante, cela est un vrai souci pour l'avenir du podcasting amateur. Pom 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 ont eu de gros problèmes suite à la suppression de leur hébergement par le fournisseur de services internet Free, et certainement que les problèmes vont se multiplier. Alors quand je vois Typepad qui a augmenté la bande passante qui est comprise dans l'abonnement le plus cher chez eux à 10 gigas par mois, j'aimerais dire à Loïc Lemeur que 10 gigas c'est à peu près ce que je consomme personnellement en un jour, et cela est parfois même supérieur. Alors suis-je une exception pour autant? Je ne pense pas. Pomcast.com avait dépassé les 100 gigas en 15 jours. Luc Saint-Elie, il me semble, avait consommé 20 gigas le premier week-end de l'arrivée d'iTunes. Donc les offres d'hébergement en termes de bande passante ont intérêt d'évoluer réellement si on ne veut pas voir disparaître le podcasting amateur ou même les petites structures commerciales. Mais il est faux de dire que les États-Unis ont une avance technologique très importante sur nous. D'un point de vue technique et au niveau des connexions ADSL ou des bandes passantes, nous sommes lotis au même rang. Par contre, les États-Unis ont une avance importante sur l'utilisation et la commercialisation du podcasting. Mais là, il faudrait changer les mentalités françaises. Un exemple, les podcasteurs américains n'ont pas peur de mettre de la publicité dans leurs podcasts à partir du moment où cela leur permet de payer leur hébergement et de rémunérer plus ou moins le temps qu'ils leur faut pour enregistrer, monter, diffuser leur podcast. Mais surtout, ce sont les annonceurs qui prennent le plus de risques et qui acceptent de le faire car ils ont compris l'intérêt du podcasting. Macinside est un des podcasts qui traite de l'univers Mac et il diffuse dans tous ses podcasts de la publicité. Au sommaire, dans ce numéro, nous parlerons du forum de Podcast France sur le podcasting qui vient d'ouvrir, d'une nouvelle interface à Chapter Tool pour macOS 10.3 cette fois-ci, du nom de domaine podcast.com qui est à vendre. Nous aurons une interview exclusive avec Frédéric Miseret, le directeur délégué aux nouvelles technologies du groupe RTL. Cela comprend entre autres RTL, RTL2 et Fun Radio. À la découverte des podcasts, nous reviendrons sur les podcasts spécial Mac avec l'arrivée de MacG notamment. De Caviar et Ravioli, le premier podcast francophone culinaire, et de son entrée dans Volume, le concurrent 100% Frenchie d'Audible. De Snob, Apte et Pas Bon, un podcast totalement décalé. Et nous finirons avec le podcast Carte Postale 2, qui nous fait découvrir Bordeaux. L'invité du PodMag 9, c'est Olivier Anne, du podcast Carte Postale 2. Nous reviendrons sur son podcast, la manière dont il le réalise. Et ne loupez pas, en fin d'interview, la participation de Luc Saint-Elie à un mini-débat sur son initiative d'inviter Annie de Melting Pot sur son lien iTunes. Vous connaissez peut-être déjà le forum d'audioblog.fr. Voici le forum de Podcast France. Alors, il a pour but de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser concernant le podcasting, ses logiciels, le matériel, mais c'est également un espace de discussion. Alors, vous pouvez par exemple trouver un sous-forum PodMag pour pouvoir parler du PodMag entre nous, me donner vos avis et vos remarques. L'adresse de ce forum est assez simple, il s'agit de forum.podcast-france.com. Chapter Tool est une application qui permet au moyen du terminal Mac et de fichiers XML de chapitrer des podcasts au format AAC. Alors c'est un peu décourageant pour certains, mais il était apparu Chapter Tool Me il y a quelques semaines. Chapter Tool Me est une interface simple, claire et gratuite pour chapitrer facilement vos podcasts. Seul problème, elle ne marchait qu'avec la version 10.4 de Mac OS X. Cela est plus ou moins réparé avec l'arrivée de VisaCast. Alors VisaCast vous propose le même principe que Chapter Tool Me, puisqu'il s'agit d'une interface avec deux avantages. D'abord, vous pouvez écouter et suivre automatiquement votre podcast sur une bande de défilement intégrée. Cela facilite le chapitrage exact. Et surtout, cela marche avec macOS 10.3. Le gros défaut de cette application, c'est certainement le fait qu'elle soit payante, 25$, alors que Chapter Tool Me est totalement gratuite. Notons également que le créateur de Chapter Tool Me travaille sur une nouvelle version pour macOS 10.3 qu'on attend avec impatience. Si vous avez 250 000 dollars à perdre, vous pouvez acheter non pas le PodMag, même si on peut en discuter, mais tout simplement le nom de domaine podcast.com. C'est le prix que son propriétaire souhaite obtenir pour ce nom de domaine. Si vous n'avez que 75 000 dollars de disponible, ne vous inquiétez pas, il a également mypodcast au pluriel.com à vendre. Aujourd'hui dans le PodMag, je suis heureux de recevoir Frédéric Miseret. Frédéric Miseret est le directeur délégué aux nouvelles technologies pour le groupe RTL. Et il va nous expliquer les raisons pour lesquelles RTL se lance dans le podcasting. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, je suis content de vous recevoir pour plein de raisons. D'abord parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser. Mais on va commencer tout d'abord par comment RTL, le groupe RTL, s'est mis au podcasting. Comment est arrivé le projet en fait de podcast RTL?
Écoutez, c'était avant que j'arrive, donc je vais essayer de vous répondre d'une manière un peu sommaire. On a assez vite regardé, on est dans le milieu de la radio, donc tout ce qui est des flux audio nous intéresse. Quand on a un petit peu vu que le podcast commençait à prendre, comme nous avons dans le groupe la radio RTL elle-même, qui est une radio où on parle et que le podcast, pour des raisons de droit, est assez limité à des flux de voix, on s'est dit, est-ce que nous avons dans la grille des programmes ou des parcours pour habituer les gens, qui risqueraient d'intéresser les gens après coup, parce que le podcast, c'est pas du simultané, donc il faut que le programme ou ce qu'on raconte ait encore un intérêt quelques heures après la diffusion, alors que la radio est souvent un métier de l'instant. Donc on a regardé et il se trouvait qu'on avait un programme qui assez court, qui rediffuse les meilleurs moments de la journée, tant du point de vue de l'actualité que de l'insolite. Et on s'est dit, bah voilà, essayons, proposons ça, ce service. C'était même avant qu'Apple ne sorte iTunes 4.9. Et puis regardons ce qui se passe.
Est-ce que vous avez regardé un peu ce que faisaient d'autres radios à l'étranger? Alors je parle surtout des radios francophones comme Nostalgie Belgique ou Radio Canada.
Oui, on a regardé. Pour l'instant, on est dans une logique de duplication de l'existant en reformatant les choses. Il faut pas se précipiter. Je suis quelqu'un qui est dans le domaine de la technologie et j'ai découvert le monde de la radio. Et les choses ne sont pas aussi simples pour que les gens vous écoutent. Il suffit pas de jouer de passer des disques pour que la radio ait du succès. Sinon, les web radios auraient une audience différente. Donc, on essaye de bien comprendre comment ça se passe et d'offrir un programme adapté. Donc on va commencer par ce qu'on sait faire, ce qui a du succès, et puis après, pourquoi pas un jour faire des programmes spéciaux.
Justement, au niveau des offres, pour le moment, RTL, il propose quoi comme offre de podcasting?
Alors je vais vous dire, parce que ce qu'on proposait là, ce que je vous ai décrit un peu plus tôt, qui était les meilleurs moments d'RTL, vous savez qu'il y a une saisonnalité de la radio comme de la télévision, et que l'été... ils ont une grille différente. Et là, il y avait moins d'actualité. C'est plutôt de la détente sur nos antennes. Donc, on a rien d'intéressant à proposer en été pour le moment. Il était un peu tard pour y réfléchir. Donc, en fait, jusqu'à la fin juin, on avait cette offre sur les meilleurs moments d'RTL. Et ça reprendra à la rentrée, je crois que c'est le 25 août, que les choses vont redémarrer. Donc on avait ce programme là et puis là on va étendre l'offre à partir de la fin août avec les nouveaux programmes de la rentrée.
Alors sur audible.fr on peut trouver un programme d'RTL. Est-ce que ça fait partie de cette offre de podcasting?
Non, ce sont deux choses très différentes. L'offre Audible, qui est d'ailleurs une société dans laquelle nous avons des parts à travers notre maison mère Bertelsmann, c'est une offre de programme audio. Pour nous, c'est assez différent de cette offre de programme radio qui va être ce qu'on va proposer en podcasting. Une des différences, parce qu'il faut pas l'oublier, c'est que le Audible c'est payant, il n'y a pas de publicité. Vous allez vous retrouver avec par contre nos offres de podcasting, vous aurez la totalité de l'antenne et donc dans l'antenne il y a de la publicité. Voilà, nous avons malheureusement besoin d'argent pour vivre, donc ça fait partie, c'est un moyen de financer indirectement le podcasting, parce que c'est pas à coût nul. À partir du moment où vous avez énormément d'auditeurs, ça peut commencer à coûter de l'argent.
Et donc dans l'offre future de podcasting, bon, on va pas trop en parler parce que vous avez dit qu'il va y avoir une conférence de presse le 25 août où vous ferez l'annonce officielle.
Oui, je peux vous parler des grands principes, mais...
Voilà. Mais ça sera une offre gratuite.
Bien sûr, oui, bien sûr.
D'accord.
Ça correspond à une offre d'antenne. C'est un petit peu, pour l'instant, en radio, il n'y a pas tous ces principes qu'on retrouve en télévision, que ce sont le TiVo ou les décodeurs évolués qu'il y a sur canal satellite et TPS qui permettent de faire du time shifting. Donc là, c'est j'ai un programme qui m'intéresse, je ne suis pas devant mon poste de radio, je ne suis pas disponible à l'heure où il passe, je me permets de l'écouter à une heure différente. On croit que ça a un énorme impact. Nous avons des programmes pour les actifs, et généralement les actifs travaillent en heure de journée. Donc nous souhaitons étendre notre audience comme ça. C'est la première étape.
On pourra voir des émissions phares comme les Grosses Têtes en podcasting, en fait.
Bien sûr, oui.
D'accord. Et est-ce que vous êtes rendu compte que vous aviez eu un souci au niveau de la communication de votre offre de podcasting? Parce que vous avez une page podcasting sur RTL où ils mettent l'offre Audible en fait à 11,90€ par mois.
Non, c'est pas tout à fait exact. Il y a une offre télécharge, ce qui s'appelle télécharger nos programmes qui bascule sur Audible effectivement. Et puis un autre endroit du site, tous les flux de RSS, dont les flux podcast, qui sont inclus. Oui, on a un souci, mais ça a été fait. C'est toujours de vouloir réagir sur tous les fronts en même temps. Voilà, il y a toujours des couacs. Alors, on a estimé que c'était moins grave d'avoir ce petit défaut et de proposer quelque chose plutôt que de rien faire et de faire les choses très très bien dans 2 ans et demi. Donc ça, c'est toujours la bataille de l'internet. C'est généralement de l'à peu près si on réagit tout de suite. Et puis après, on va se perfectionner. Bien entendu, il va falloir expliquer les choses. Mais il y a une demande de la part des gens d'avoir des programmes plus courts, sans publicité, nettoyés. Donc nous y avons répondu de cette manière-là.
D'accord.
Et c'est une offre d'ailleurs qui est plus ancienne que le podcast. Audible a démarré cette activité avant même que le mot podcast... soit sorti du cercle des 50 premières personnes qui l'utilisaient.
Et au niveau du groupe RTL, donc là on parle de la radio RTL, qui est un des pôles importants des radios françaises, mais il y a RTL2, Fun Radio, on peut imaginer du podcasting pour ces radios-là aussi, ou ça va être plus compliqué?
Alors c'est plus compliqué pour les radios musicales, pour des histoires de droit, ça c'est un sujet en devenir, nous ne sommes pas vraiment autorisés à proposer de la musique en téléchargement, parce que ça reviendrait à ça, donc on est un petit peu embêtés, c'est pour ça que d'ailleurs vous voyez très très peu de programmes musicaux, ou alors c'est des gens qui vous proposent des œuvres dont ils ont les droits, mais nous ne sommes pas compositeurs de musique, nous ne faisons que de la diffuser. Donc là, on a d'autre part des émissions avec de la parole, donc on va s'interroger, j'en parlais un peu plus tôt, l'idée c'est de savoir, c'est pas de podcaster à tout prix, tout et n'importe quoi, c'est de savoir est-ce que ça a un intérêt de pouvoir réécouter ou écouter plus tard une émission. Je vais vous prendre l'exemple. Si c'est pour podcaster des journaux, on en a le matin, nous avons 5 tranches d'informations le matin. Ça n'a pas d'intérêt de diffuser à 9h le journal de 7h. Il faut diffuser le journal de 8h. Donc il faut essayer d'un peu réfléchir pour que les gens y trouvent un intérêt.
Techniquement, vous allez faire ça comment?
Il faudrait vous préciser un petit peu votre question, parce qu'elle est
très large. Au niveau technique, ça semblait poser beaucoup de problèmes à un certain nombre de radios, en fait, de diffuser assez rapidement les contenus audio qui passaient sur la bande FM et de le transférer directement sur Internet. Ça semblait un souci, en tout cas, pour un grand nombre de radios.
Non, à partir du moment où vos flux sont numériques et que la fabrication de vos antennes se fait en numérique, on manipule des fichiers en fait, donc il n'y a pas de souci. D'autre part, si c'est du direct, comme ce peuvent être une séance d'actualité ou des chroniques qui sont faites en live et qui ne sont pas préenregistrées, on les enregistre de toutes les manières pour d'autres usages, simplement pour les problèmes d'archivage. Donc on les a en numérique. Non, ce qui pose des soucis, c'est qu'on doit être un petit peu obligé de les remonter, donc il y a un peu de travail. C'est pas automatique. Et c'est ce sur quoi on va un peu réfléchir, c'est comment arriver à fluidifier tout ça pour qu'effectivement les choses soient disponibles assez vite quand même. Il ne s'agit pas de proposer les choses deux jours après.
Et est-ce que vous pensez que ça va vous apporter réellement un auditorat supérieur ou différent de celui que vous avez actuellement à la radio?
Oui, je crois fondamentalement pour les radios, généralistes. Que nous sommes, je parle de RTL, je pense que c'est fondamental. Nous avons, lorsque vous êtes une radio musicale, ben il n'y a pas de thématisation par heure de la musique. Certaines radios musicales le font, mais la plupart des grosses radios musicales ont plutôt un programme assez fluide tout au long de la journée. Donc à n'importe quel moment où vous avez envie ou vous avez la capacité de les écouter, vous retrouvez la même chose que si vous écoutiez une demi-heure avant. Sur RTL, le programme à 12h, 15h, 19h, 7h du matin n'est pas le même. Vos nécessités professionnelles ou personnelles font que vous n'êtes pas forcément en mesure d'écouter la radio à 7 heures, même si ça vous intéresse énormément. On peut prendre un exemple, Jean-Michel Apathy, qui est un de nos chroniqueurs politiques avec Alain Duhamel, a une chronique extrêmement intéressante et les gens sont soit dans le métro, donc ne peuvent pas l'écouter, soit travaillent, soit sont pas réveillés, voilà. Et donc ratent cette interview. Donc ils peuvent aller sur Internet, la retrouver. Si ils ont souscrit à un podcast et que au moment où ils enlèvent leur baladeur ou ils veulent l'écouter sur l'ordinateur, c'est dans le baladeur ou sur l'ordinateur, ils vont pouvoir accéder au programme. Donc je pense fondamentalement, oui, on va y arriver. Combien, je ne peux pas vous dire, il faut que nous essayions. Il faudra probablement, à chaque nouveau médium, parce que c'est quand même un nouveau médium, il faudra peut-être modifier la forme des choses un petit peu. Donc on va découvrir ça. Nous ne détenons pas la vérité sur ce sujet et on essaiera de s'adapter. Ça nous semble intéressant en tout cas. Mode de consommation de nos programmes.
Et comment ça se fait que RTL soit la première radio française à se lancer dans le podcasting? Il y a une raison, c'est...
Bon, on est les meilleurs, mais... Il y a
une vraie politique à l'intérieur pour les nouvelles technologies.
Mais c'est pas une question de nouvelles technologies, c'est... D'ailleurs, c'est pas vraiment de la nouvelle technologie, c'est un nouvel usage. Il n'y a rien de nouveau dans le podcasting, si on regarde fondamentalement comment c'est fait, c'est de la réutilisation de vieux éléments, donc on le combine un peu différemment, on a un petit côté astucieux. iPodder qui était le premier produit rendait ça un peu sympathique parce que c'était déplacé dans votre baladeur. Apple fait passer le système dans une autre dimension, mais fondamentalement c'est pas de la technologie, c'est de l'usage. Donc oui, les nouveaux usages de, si on pense que les programmes que nous concevons qui coûtent cher à faire et en argent et en énergie peuvent trouver de nouveaux vecteurs d'écoute, bien sûr que ça nous intéresse.
Et vous n'avez pas peur que le podcasting risque un jour de tuer la radio traditionnelle?
Non. Ben non, parce que déjà la radio traditionnelle, faut la faire. Donc il y a déjà un problème. C'est comme je ne sais pas si vous avez connu ça, mais au début des ordinateurs modernes, il y a eu les logiciels de mise en page et tout le monde pensait qu'il pouvait faire sa petite chronique ou son petit magazine. Et les outils ne donnent pas le talent. Donc, il y a du talent dans les grandes radios. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, et ça permet de sortir des choses. Donc, c'est pas à la portée de n'importe qui. Moi, j'ai toute la technologie qu'il faut autour de moi. Je ne suis pas capable de faire un programme de radio. Donc, déjà, les choses sont limitées à ce niveau-là. Et puis, il y a jamais un médium n'en a jamais remplacé un autre. C'est un autre mode de consommation.
Je vais poser peut-être la question différemment. Est-ce que vous ne pensez pas que le podcasting va sauver la radio ? Alors, je m'explique. Hein. Ça, c'est lié à l'arrivée d'iTunes dans le podcasting. Il y a eu beaucoup de papiers qui ont été écrits, surtout outre-Atlantique, en Angleterre, aux États-Unis. Et en Angleterre, notamment, il y a eu un papier, un journaliste, qui disait « Le podcasting, c'est le sauveur de la radio parce que la radio et le média en perte de vitesse actuellement. » Comme la presse papier d'ailleurs, par rapport à la télé et à Internet. Alors, est-ce que, d'abord, RTL était en perte de vitesse réelle, et est-ce que, pour vous, le podcasting est peut-être un moyen aussi de pérenniser la situation d'RTL et des radios RTL ? Enfin, des radios RTL, mais en général des radios, quoi.
Écoutez, non, je...
Vous n'êtes pas d'accord non plus.
Bah, je suis pas d'accord, parce que alors, je n'ai même pas à être d'accord ou pas, si vous regardez, en plus, c'était il y a une semaine, les derniers sondages médiamétrie, il y en a 4 par an, sont sortis, et jamais les gens n'ont autant écouté la radio. Donc c'est effectivement quelque chose dont on parle très peu, ça semble comme on n'achète pas de poste de radio, mais on en a partout, tous les objets pratiquement qu'on a autour de nous, on sont capables d'écouter de la FM. C'est quelque chose qui nous entoure, les gens écoutent beaucoup la radio, donc non, je pense pas que le médium soit en danger. C'est pas pour ça qu'il faut rien faire, et on est l'exemple contraire, mais je sens pas le danger de ce niveau-là. Il n'y a pas un déficit d'amour qui irait vers la télé. C'est le média le plus consommé, c'est le média avec le plus de crédibilité. Tous ces indicateurs sont vraiment au beau fixe. L'offre est, si on parle de la France, est quand même assez riche, ce qui est une bonne chose. Non, j'ai pas d'inquiétude. En plus, quel podcasting, mais on est la radio est en train de faire sa révolution. Ça va prendre 2-3 ans en France avec le passage au numérique. Donc ça fait juste partie de cette tendance de la numérisation, de regarder si on est capable d'offrir un petit peu plus que ce qu'il y avait aujourd'hui. On est en train de parler de radio augmentée, comme il y a de la réalité augmentée dans les chasseurs ou dans certaines voitures qui vous permettent d'avoir les informations routières sur le pare-brise et non plus de regarder les choses sur un tableau de bord. Donc non, c'est un médium en pleine évolution, mais c'est la nature même des choses. Mais non, on n'est pas... vous viendriez ici, vous ne verriez pas des gens inquiets. C'est plutôt... ça se porte plutôt bien. Les gens sont plutôt réactifs. Quand on fait des changements, qu'on améliore les programmes, on sent vraiment une augmentation de l'audience. Donc c'est quelque chose de très très vivant. Et c'est écouté par... ça dépend des programmes, mais par les plus jeunes et par les plus vieux. Donc... la radio n'oublie personne, justement, ces nouveaux modes de diffusion vont nous permettre d'atteindre d'autres types de populations. Donc, ce sera plus, ce ne sera pas un remplacement.
D'accord. Et vous imaginez l'avenir du podcasting RTL comment ? Dans un an, ça ressemblera à quoi ?
Écoutez, je ne sais pas. Si je le savais, j'attendrais pas un an. par définition, je ne sais pas. On va déjà être, parce que on va lancer, si je compte bien, on va lancer près de 10 podcasts différents, rien que sur RTL à la rentrée. Donc on va un peu se jeter à l'eau là-dessus. Il y aura probablement des petits ajustements. Et on va regarder ce que ça donne. On va faire ça de manière professionnelle, donc en demandant aux gens ce qu'ils en pensent, en faisant des ajustements, en regardant comment les gens réagissent. Et puis peut-être on pourrait imaginer que nous fassions des formats un petit peu différents que ce qui se passe en radio. En radio, nous pouvons diffuser 24 heures par jour. Les podcasts, nous n'avons pas cette contrainte. Donc, on pourrait imaginer des versions longues, des choses un peu différentes. Moi, j'espère un jour être capable de diffuser de la musique. Les maisons de disques nous parlent d'un problème de diversité musicale et que les radios actuelles ne diffusent que très très peu de titres. On pourrait faire des efforts de ce côté-là, sans bien entendu risquer de mettre tous les gens qui travaillent pour nous au chômage. Donc pourquoi pas avoir un programme de radio, une émission qui soit podcastée, soit peut-être diffusée la nuit, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre des millions d'auditeurs, et puis podcastée pour les autres, et qui soit un petit peu plus aventureuse, pourquoi pas. Il faudra en discuter avec les maisons de disques qui nous poussent à la diversité mais nous freinent sur tous ces aspects-là. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Mais j'aimerais qu'on s'intéresse à ça. On a en arrivant dans cette entreprise, j'ai découvert un programme sur RTL qui est diffusé entre 3h et 5h du matin. Donc vous imaginez que c'est pas à l'heure idéale pour avoir des dizaines de millions d'auditeurs, mais il n'en reste que c'est un programme de musique de très très grande qualité. Et j'aimerais bien lui donner un peu plus d'audience. Donc le podcast est une des voies pour ça.
Alors maintenant, une dernière question avant de nous quitter. Frédéric, qu'est-ce que vous écoutez comme podcast francophone, à part vos podcasts RTL ?
En ce moment, je n'ai le temps ni d'écouter des podcasts, ni d'écouter la radio, ni de regarder la télévision, ni de faire quoi que ce soit d'autre. Je vais attendre lundi prochain pour prendre quelques jours de vacances parce que je suis arrivé il y a un peu plus de 2 mois et les journées font de 19 à 20 heures et j'ai pas le temps. Donc, les vacances vont permettre justement de s'arrêter un petit peu et de passer un peu de temps justement pour regarder et pas simplement écouter 2 minutes, c'est de devenir un utilisateur régulier comme je le suis pour les RSS, je suis 200 feeds à peu près par jour. Il va falloir que je m'y mette un petit peu. Mais là c'est aussi une grosse différence, c'est que quand c'est en audio, ça, il va falloir que il va y avoir beaucoup moins de place qu'on ne croit par rapport à l'information sur le web qui est lue et qui prend moins l'attention, je trouve, que la radio, parce que on est sur des programmes qu'il faut écouter, donc ça nécessite beaucoup d'attention. Donc je pense que cette nouvelle forme de distribution de contenu audio va se réguler de cette manière-là aussi. On va avoir des podcasts qui deviendront de gros podcasts très importants, très écoutés, et les autres disparaîtront très vite.
Frédéric, je vous remercie.
Je vous en prie.
Et puis longue vie à RTL. Alors rendez-vous le 25 août pour, voilà. Pour la conférence de presse.
Voilà, très bien. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Si vous souhaitez réagir à cette interview, n'hésitez pas à le faire soit en appelant depuis la France le 08 70 44 88 13 et laisser un message sur le répondeur du PodMag, depuis l'étranger, la Belgique, la Suisse, le Québec, le 00 33 870 44 88 13 ou tout simplement en utilisant Skype, en appelant France Podcast tout attaché et vous laissez toujours pareil votre message sur le répondeur du PodMag. Les podcasts dédiés aux Mac users sont de plus en plus nombreux dans le podcasting. Mac Gestion est par exemple un podcast dédié aux solutions logicielles de gestion pour les ordinateurs Apple. Vous connaissez tous le précurseur francophone des podcasts Mac qui est Pom 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 de pomcast.com. Vous avez également Lulu Mac et la semaine dernière nous parlions du bar Mac G. Or justement ce podcast vient de fusionner avec Mac Génération qui nous propose un podcast de qualité sur le monde Mac. Et je dois dire que je suis assez content qu'un site aussi sérieux que Mac Gestion se mette enfin au podcasting. Voici un extrait de leur podcast.
Podcast MacG, bonjour. Je retrouve tout de suite Cyril Pavillard, cofondateur de Mac Génération, avec lequel nous allons tâcher de vous expliquer brièvement le pourquoi de ce podcast. Cyril, bonjour.
Bonjour Xavier.
Alors, comme je le disais, tu as cofondé Mac Génération en 1999 avec Christophe Laporte et tu es aujourd'hui à l'origine de ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment t'es venue cette idée ?
Alors d'abord, on est à l'origine. Bon, depuis la fin de MacNews TV, qui était une expérience de TV online qu'on avait faite avec Mac Génération au début des années 2000, il y avait toujours cette idée de faire une émission de radio. C'était plus facile à mettre en place qu'une émission TV. En 2003, c'est le rêve est un petit peu devenu réalité avec le lancement de Radio Le Pommier sur l'Apple Expo avec les confrères de l'association. Mmh. Et l'année dernière, avec l'arrivée du phénomène podcast, la réflexion a recommencé finalement. Et puis quand iTunes 4.9 est arrivé il y a quelques semaines, là, toutes les pièces du puzzle étaient en place pour réaliser ce rêve.
Nous n'attendons plus que l'arrivée de Mac Forever ou de Mac Bidouille dans la course avant que les gros mastodontes tels Univers Mac ou SVM Mac se lancent à leur tour. Envie de cuisiner, vous ne savez pas quoi faire, alors allez faire un tour sur le podcast de Caviar et Ravioli. Il vous propose de découvrir des recettes faciles et originales à faire. Voici un extrait.
Caviar et Ravioli, la cuisine qui s'écoute.
Je suis sûr que vous êtes comme moi. Quand je fais mes courses au supermarché, j'ai souvent tendance à acheter plus que nécessaire, si bien que mes placards sont remplis de conserves ou de produits d'épicerie qui peuvent passer des mois à prendre la poussière dans l'obscurité. Ainsi en va-t-il de mes boîtes de thon. Pourtant, j'apprécie le thon en boîte. J'en aime le goût, la texture et la facilité d'utilisation. D'autant plus que ce produit se prête à un grand nombre de préparations savoureuses.
Alors, ce podcast fait partie des tout premiers podcasts payants. Tous les podcasts sont accompagnés d'une fiche cuisine au format PDF et vous pouvez acheter ces podcasts sur le site volume.fr. Volume, ça s'écrit avec deux O. C'est l'occasion pour nous de parler de ce site français qui est un peu le concurrent d'Audible. Ils proposent aujourd'hui des livres audio à acheter et un certain nombre de nouveautés devraient arriver dans les semaines à venir. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Snob, apte et pas bon. Et le podcast décalé par excellence, sorte de journal culturel façon queer, mais tellement plus intelligent. Cela fait partie des perles du podcasting francophone à écouter absolument.
Bonjour, ici Clarence Dutilleul pour le podcast agréé iTunes, Snob Apté Pas Bon. Édition numéro 1, 17 juillet 2005.
9h30 AM.
Wow, déjà ?
Ah mais j'avance un peu.
Aujourd'hui, cinéma. Le fantasme de la jeunesse. Télévision, le substitut sexuel. Musique, les rythmes de l'été.
L'invité de ce numéro, c'est Olivier Hahn du podcast Carte Postale 2. Il revient avec nous sur son podcast, sur la manière dont il le réalise et sur l'avenir de Carte Postale 2. Ne loupez pas en fin d'interview le débat avec Luc Saint-Elie d'Audioblog. Alors on a eu un petit souci technique, donc la qualité peut ne pas toujours être excellente, mais surtout écoutez jusqu'au bout cette interview, cela est très intéressant. Olivier, bonjour.
Bonjour Julien.
Comment tu as eu l'idée de créer Carte Postale 2 ?
Ben en fait, j'aimais bien voyager à droite à gauche. J'avais un site précédent qui était sur le roller, sur Bordeaux. J'aime bien faire un peu de photos, tout ça. J'aime bien découvrir un peu la nature. Et puis, ben, je me disais que c'était un bon complément, en fait, de faire un podcast comme ça. Première prémisse, parce qu'en fait, je m'étais dit que je pouvais rajouter ce type de podcast sur mon site de roller un jour, en fait. C'est-à-dire que mon site de roller propose déjà des parcours qu'on peut faire sur le Bordelais. Et donc j'avais rajouté tout ce qui a toutes les photos où on peut s'arrêter, etc., mais en photo. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas rajouter le son avec ça.
Et comment tu as découvert le podcasting?
Oh, alors je l'ai découvert en septembre de l'an dernier. Ouais, à peu près. Enfin, ouais, ou peut-être un peu avant. Et je l'ai découvert par hasard. Alors, exactement comment, je ne sais plus. C'est au travers de newsgroup ou de forum. Là, je ne sais plus trop.
Dans Carte Postale 2, tu nous fais découvrir la ville de Bordeaux. Pourquoi avoir choisi cette destination? Alors, bon, tu y vis. Mais est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle tu as choisi de faire découvrir Bordeaux?
Je voyageais pas assez en fait, parce que je m'étais dit carte postale, mon but était d'aller, comme je vais de temps en temps aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, enfin un peu partout quoi. Je m'étais dit, bah, pourquoi ne pas faire une découverte de ce que moi je vis. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas commencer tout simplement par Bordeaux, pour les touristes ou pour les gens qui viendraient montrer ce que c'est que Bordeaux, quoi. Tout simplement.
Le but, c'est quand même de faire découvrir d'autres destinations par la suite.
Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit carte postale 2, point, point, point. Parce que j'ai pas dit carte postale 2, Bordeaux. Parce que c'est pas forcément sur Bordeaux. Je vois déjà un peu plus loin.
Alors, tu nous as fait découvrir la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il y a d'autres destinations que tu aimerais parler en particulier ?
Je n'en ai pas en particulier. Franchement, si je vais quelque part, si j'ai mon mini-disque et puis si j'ai mon micro, j'enregistre. On verra ensuite. Hein.
Oui, à propos de matériel, toi, tu n'utilises pas de lecteur MP3. Alors, tu utilises quoi pour faire tes podcasts et pour faire carte postale 2 ? C'est quoi ton matériel exactement ?
Alors, la plupart des podcasteurs qui font des enregistrements, disons, à l'extérieur utilisent essentiellement des lecteurs MP3. Alors, moi, au début, je m'étais dit, je vais en acheter un. Il se trouve qu'un an avant, j'avais acheté un mini-disque, un Net MD de Sony, qui se trouve avoir aussi une prise d'enregistrement. Et après avoir recherché sur le net, etc., ce qui existait au niveau enregistreur MP3, j'ai trouvé que le mini-disque était l'appareil le plus sûr, entre guillemets, pour enregistrer et en stéréo, parce que j'utilise un micro stéréo, et d'une assez bonne qualité pour enregistrer l'environnement. Je ne voulais pas que ce soit un dictaphone où on n'entende que ma voix, puisque justement, j'essaie de mettre l'environnement où je suis dans le podcast. Donc j'ai besoin d'entendre tout le bruit de fond.
Alors les bruits de fond, pour toi, c'est assez important. Tu aimes faire écouter ton environnement sonore quand tu te trouves dans un lieu. Pourquoi cette particularité ? Pourquoi un attachement aussi profond à l'environnement sonore ?
Tout à fait. En fait, ce serait plutôt moi qui serais en extra. L'idéal, à la rigueur, ce serait de n'avoir en fait que du son tout autour. Bon, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop simple. Il me manquait un petit ajout en plus. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas rajouter un petit côté historique ou ce que je vois, quoi, d'écrire. C'est ce que appelle Adam Curry le Sound Seeing Tour.
Alors je ne sais pas si tu as eu l'idée quand tu as créé Carte Postale 2 de faire un podcast payant, mais le format de Carte Postale 2 pourrait tout à fait être un format commercial, puisque tu pourrais très bien trouver des guides touristiques ou des tours opérateurs qui seraient prêts à payer ou à vendre ton podcast pour faire découvrir tel ou tel endroit. Alors est-ce que toi, quand tu as créé Carte Postale 2, tu as pensé à faire quelque chose de payant ?
Non, disons que ça ne m'est pas encore venu à l'idée. Je rentre juste dans le son. Je suis vraiment un débutant là-dedans, donc je ne connais pas du tout comment on traite le son, etc. Tu vois, j'ai juste un mini disque, un micro stéréo. Je ne sais même pas si le micro stéréo est un bon ou non. Je ne suis pas du tout spécialiste, quoi. Maintenant, c'est intéressant, mais est-ce que je vais en faire peut-être un métier ? Je pense pas, franchement. Est-ce que éventuellement je gagnerai des sous ? Si on m'en propose, je vais peut-être pas refuser. Hein. Donc, est-ce qu'il sera commercial ? Disons que c'est pas mon but. Bon, maintenant, je suis toujours ouvert. Hein. Voilà.
Donc pour toi, le podcasting, ça reste pour le moment, en tout cas dans l'état des choses, une passion.
C'est une passion qui reste encore, je pense, ponctuelle, parce que je le fais depuis janvier, hein, donc c'est vraiment tout nouveau.
Oui, mais tu fais quand même partie des tout premiers podcasteurs francophones. Tu fais partie des Luc Saint-Elly, des Bertrand Lenôtre, tu fais partie des tout premiers.
C'est vrai qu'au niveau francophone, oui, c'est vrai. Bon, maintenant, je vais pas le dire tout fort, ouais, super, je fais partie des premiers. Non, parce que je considère qu'il y en a d'autres qui sont arrivés après moi et qui, à mon avis, sont d'une qualité supérieure ou qui m'intéresseraient. Donc, non, je suis... Oui, Je suis juste parmi les premiers, point.
Alors, tu fais aussi parmi des tout premiers podcasts francophones rentrés dans l'iTunes Music Store, dans iTunes 4.9. Est-ce que pour toi, iTunes a changé quelque chose dans ton podcast ou dans ta manière de voir les choses ?
Ben, alors déjà, ce n'est pas moi qui me suis inscrit. Il y a quelqu'un qui m'a mis dedans, on va dire. Un rappel ou quelqu'un d'autre, je ne sais rien. Bon, ça m'a fait plaisir parce que bon, c'est sûr que être sur le site d'Apple, ça peut être intéressant. Donc, ça peut faire aussi de la publicité parce que moi, je m'étais inscrit sur tous les répertoires qui peuvent exister. Donc, le site d'Apple est aussi intéressant qu'en publicité. Maintenant, le problème d'Apple, justement, la contrepartie, c'est que, entre guillemets, ça demande un certain trafic. Et bon, à part, il y a déjà quelques podcasts qui ont eu des problèmes. Moi, apparemment, je n'en ai pas trop. J'ai vu au niveau des stats de téléchargement qu'il y avait une énorme augmentation et je ne sais pas du tout si mon provider va continuer à accepter ça ou non. J'ai vu qu'il y avait aussi une baisse ces derniers jours. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû. Voilà. Donc pour l'instant, j'essaie d'en profiter, entre guillemets, pour peut-être avoir plus d'audience. Et après, bon, si ça baisse, ça baisse. Je ne vais pas en tenir rigueur. Je veux dire, les autres, ils m'en ont apporté. Et peut-être que non. Et peut-être que mon podcast n'intéresse personne aussi. Hein. C'est l'effet de mode.
Alors, Carte Postale 2 est bilingue en fait, puisque tu proposes une version en français, une version en anglais. Pour quelle raison ?
Ben, alors là, ça, c'est une raison. C'est tout simplement parce que je voulais améliorer mon anglais. Alors, pour améliorer son anglais, le mieux, c'est de le parler. Voilà, tout simplement. Je voulais prendre des risques. Tout comme le côté historique de mon podcast est complètement, je ne suis pas du tout historien. Et j'étais toujours nul en histoire. Et j'ai pris ça parce que c'est quelque chose que je connais pas trop. J'ai pris beaucoup de risques à personne. Et pareil pour l'anglais. Voilà, donc je ne sais pas si je parle bien anglais. Je sais qu'il y a certaines personnes anglophones qui me disent « Oh, c'est bien, c'est très bien, mais bon. » Voilà. Maintenant, oui, c'est un concept aussi de le faire en bilingue.
Alors, si tu as déjà écouté une interview du PodMag, tu sais qu'il y a des questions qui reviennent régulièrement. Et notamment, quels sont les podcasts francophones que tu écoutes ?
Voilà. Au début, parce que là, depuis une semaine, là, j'ai re-regardé ce qui se faisait, en fait. Alors, un des podcasts que j'écoute le plus souvent, c'est un des premiers francophones, c'était le podcasteur de Bertrand Lenôtre. Et il y a aussi celui de Luc Saint-Élie, qui est un des premiers aussi. Qu'est-ce qu'il y avait encore Je crois que c'était toi à l'époque. En fait, je préfère des podcasts qui parlent plus que de la musique. Donc, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Aujourd'hui, maintenant, là, depuis une semaine, j'ai refait un tour sur les répertoires. Donc là, il y a aussi, j'écoute maintenant Vue d'ici, qui est québécois. Enfin, il est anglais et français, il est bilingue. Alors, des fois, il y a Bicycle Mark, qui parle français. Bon, il est hollandais, c'est ça. Il parle en anglais. Enfin, c'est un portugais immigré en Hollande qui parle de temps en temps français. Voilà. Il y a Arte Radio. Arte Radio qui est un très bon podcast. Là, j'ai rajouté Culture Pod.
Alors Olivier, maintenant c'est l'heure d'accueillir Luc Saint-Élie d'audioblog.fr. Je lui ai proposé de venir intervenir lors d'un triplex avec toi pour qu'il puisse nous expliquer ses motivations et les raisons pour lesquelles il a invité Annie de Melting Pot sur son feed iTunes. Il y a eu une mini polémique la semaine dernière. Alors tu as fait partie de ces détracteurs puisque sur le site d'audioblog.fr il y a eu un long échange entre toi et Luc. Mais tu n'as pas été le seul, puisque Stuff de Pom 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 Pom, lors de son interview dans le Podmag, a considéré que l'initiative de Luc ressemblait à du spam. Alors, j'ai voulu proposer à Luc de venir pour qu'il puisse s'expliquer, pour qu'il puisse dire pourquoi il avait fait cela, et qu'on puisse entendre les deux sons de cloche en même temps. Alors, on va commencer tout d'abord par Luc Saint-Élie. Alors, Luc, bonjour. Pourquoi tu as décidé de faire intervenir Annie dans ton feed RSS? C'était quoi tes motivations?
Ma motivation, elle est vachement simple. C'est que moi, je suis propriétaire d'aucun espace. J'ai eu la chance que j'ai ni mérité ni sollicité de bénéficier d'une promo insolente de la part d'Apple. Et je publie en ce moment à peu près un fichier toutes les 3 semaines, tous les mois. Donc iTunes est fait de telle manière qu'il met en avant une centaine de liens si on cherche vraiment et une vingtaine frontalement lorsqu'on l'ouvre. Sur ces 20 sites, il y avait deux Français, moi en l'occurrence, et alors je vais pas faire d'impair parce que je me suis déjà gouré une fois, ça doit être Podcast France, qui ne bouge jamais, ce qui est un peu con. Et donc, Annie se trouve par ailleurs être une amie et qui galère pour se faire enregistrer chez iTunes, parce que nous, on a une chance énorme d'avoir de faire partie du paquet GDPR, mais alors ensuite, se faire référencer, c'est apparemment pas simple. Donc, je lui ai proposé, en gros, de bénéficier de mon espace, en attendant que j'ai des choses à mettre en ligne. Voilà, il n'y a pas de concept particulier là-dessus, autre que de dire, en gros, Apple me propose un panneau 4x3, moi j'ai pas d'affiche à mettre dessus, si quelqu'un d'autre veut mettre une affiche à ma place, vas-y.
Et alors toi Olivier, c'est quoi qui t'a déplu dans l'initiative de Luc Saint-Élie?
En fait, ce qui me dérange, alors ça n'a rien à voir avec iTunes, soit un positionnement ou quoi que ce soit, j'aimais bien le fait que Luc, bah, il postait des bulletins comme ça, de façon périodique ou apériodique, moi ça ne m'embêtait pas du tout, mais le fait que, en fait, qu'on ne sache en fait jamais sur quoi on va tomber. En fait, moi je m'étais inscrit, abonné sur, pour recevoir donc ces podcasts, je me retrouve avec de la musique. Or bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas du tout tourné plutôt musique, mais plutôt au contraire discussion, donc je ne savais plus où j'en étais. Moi je suis plutôt, alors c'est ce que je disais, en réponse, que j'ai fait peut-être vieux jeu, mais bon, quand je suis sur un canal que j'aime et que je voudrais continuer à l'écouter, et si d'un coup c'est on part autre part, ou bien on va dire l'auteur de l'émission fait autre chose, moi là je trouve dommage que tout d'un coup ça parte, quoi. Voilà. Donc je ne critique pas du tout le fait qu'il invite quelqu'un, je veux dire, c'est son droit aussi. Moi je trouve que son feed n'est plus le feed que j'avais avant. Voilà, je voulais réagir là-dessus. Et que pour moi c'était plutôt une erreur, parce que je perdais Luc, voilà, tout bêtement.
Oui, justement, une petite précision. C'est-à-dire que sur mon site, c'est Olivier qui a dérouillé, parce que c'est lui qui a montré le bout de son nez. Mais il a pris pour le gars de Pom Pom Pom. Soyons, faut que je sois honnête là-dessus. Parce que j'ai écouté ton dernier Podmag, et j'ai trouvé que le gars de Pom 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 avait été à la fois hypocrite, mesquin et stupide. Alors, je vais m'expliquer. Hypocrite parce que Olivier vient de refaire la même erreur. Mais sauf que je ne connais pas Olivier. Donc je ne peux pas présupposer qu'il connaît bien. En revanche, le gars de Pom Pom Pom, étant, comme il l'a dit plusieurs fois, informaticien, il anime un site qui parle de Macintosh, il est censé savoir comment marche iTunes, et on peut lui demander, c'est un peu le minimum syndical, de savoir ce que c'est qu'un lecteur RSS. Le spam, c'est quelque chose de très particulier, c'est quand je récupère une donnée personnelle qui t'appartient et que je t'envoie quelque chose. Tu n'as aucun moyen de contrôle de m'empêcher de t'envoyer, et surtout tu n'as aucun moyen de ne pas le recevoir. La seule défense que tu aies face au spam, c'est de mettre un filtre soit sur ton Mac ou ton PC, soit sur ton logiciel de mail, mais en fait ce filtre c'est juste un cache-sexe. Le message, tu le reçois et tu peux rien faire pour ne pas le recevoir. Le RSS, c'est totalement différent. C'est pas du tout de l'envoi, comme vient de le dire Olivier, c'est du téléchargement. C'est-à-dire que le visiteur qui utilise iTunes ou autre chose décide de télécharger ou de ne pas télécharger un fichier qui est mis à sa disposition. Moi, et quand je dis moi, tous les gens qui font du podcasting, puisque ça c'est un des principes techniques de base du truc, n'envoient rien. Les visiteurs viennent et décident de télécharger. On peut imaginer qu'un visiteur ne sache pas configurer iTunes. J'ai un peu du mal à penser que le gars de PomPomPom, qui fait donc un site sur Macintosh, ne sache pas configurer iTunes. J'ai expliqué ça en voyant sa réaction sur les commentaires de mon site. Il faut chronométrer en main 5 secondes, on fait menu iTunes préférences, on clique sur l'onglet podcast et ensuite le soft demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse à chaque fois que je trouve un nouveau fichier, il y a différentes options. Où il y a ne rien faire, il ne fait rien, ou le télécharger systématiquement, et je ne me rappelle plus quelle est la troisième. Ça veut donc dire que moi, je n'en vois rien. Je n'ai pas obligé les gens à écouter les fichiers d'amis. J'ai simplement mis à disposition sur cette espèce de tuyau que Apple mettait à ma disposition à moi, ce qu'elle faisait elle. Pour la petite histoire, il s'est trouvé qu'il y a eu qu'elle, mais auparavant, j'étais en discussion avec Sylvain Girf, c'est moi qui ai donné un coup de main à son développeur pour mettre en place leur feed pour iTunes, et s'ils n'y étaient pas arrivés à temps, mais le gars, il s'est bien énervé, ils ont réussi à se faire référencer, j'aurais diffusé aussi, et j'étais prêt à diffuser aussi Arte Radio, puisque j'avais de la place dont je faisais rien. Mais ce qui est important dans cette histoire, et c'est pour ça que j'ai commencé par dire que c'était mesquin, enfin, hypocrite plus exactement, c'est que là, sa remarque, bon, on est en train de se battre, c'est du chipotage de cours de récréation, on est pas, je veux pas sa mort, il veut pas la mienne, on est bien d'accord. Mais elle est particulièrement hypocrite parce que le qualificatif de spam, c'est un truc que j'accepte pas du tout, puisqu'on est vraiment pas dans un système d'envoi. Personne n'est obligé de télécharger ça. Tout le monde fait comme il veut iTunes, n'importe quel autre. J'ai trouvé mesquin parce que cette histoire de promo d'Apple a commencé il y a 10 jours. Le truc de dire, oh, non, on est une vingtaine à avoir bénéficié de ce truc, quand je dis une vingtaine, je compte très très large, parce que dans la vingtaine, il y a l'IBC et deux, trois trucs comme ça, on doit être en gros 8 français, quelque chose comme ça, à la louche, comme ça. Ça vient entre nous, surtout, n'ouvrons pas aux autres. Ça aboutit à des trucs comme par exemple, je crois que le quatrième de la liste, c'est quelqu'un qui a enregistré une fois un fichier et qui, depuis, monopolise cette quatrième place, dont personne profite, ce qui est vraiment débile. Et enfin, je trouve que c'est pas judicieux, parce qu'aujourd'hui, on en est au tout début, et il me semble que l'intérêt de tout le monde, c'est que ces auditeurs dont on ne sait pas à quoi ils ressemblent, dont on ne sait pas du tout quelles vont être leurs réactions, dont on ne sait pas s'ils vont rester, dont on ne sait pas si ça va leur plaire, aient la possibilité d'écouter un maximum de choses différentes, dans n'importe quel sens. Et si quelqu'un, d'un seul coup, décide que tel truc ne lui plaît plus, il lui suffit de dire à son logiciel, eh ben, ne me télécharge plus, télécharge-moi simplement les titres, par exemple. Et puis le jour où je verrai un titre qui me plaît, à ce moment-là, je clique sur le bouton dans iTunes, c'est un petit bouton qui s'appelle Obtenir, je clique sur Obtenir dans ce cas-là et il me récupère le fichier. J'étais un peu long, mais voilà.
Alors, Luc nous dit que si on ne veut pas télécharger un podcast, c'est assez simple et on n'est pas obligé de télécharger le podcast. Et toi, tu persistais tout de même sur son site à dire que tu n'étais pas d'accord avec ça. Alors, pourquoi ?
Ben moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, avec l'explication de Luc, moi, je n'ai aucun problème. Je veux dire que c'est vrai, il a raison. Comme je disais aussi sur le truc, l'auditeur il les a peur, c'est-à-dire, il aime, il s'abonne, il n'aime pas, il se désabonne. Moi je le fais régulièrement. Là cette semaine je me suis abonné à plusieurs podcasts français que je n'avais pas avant dans ma liste. Je vais les écouter, si ça me plaît je garde, si ça me plaît pas je vais à côté. Bon, il se trouve, moi j'aime bien ce que fait Luc. Bon, il faisait des podcasts de façon apériodique. Donc moi je reste abonné. Moi c'est vrai que le fait qu'il rajoute un podcast, le podcast d'année en plus, moi non, enfin bon, là dans ce cas-là précisément, je dis non, moi ça m'embête parce que je perdais le canal de Luc. Voilà, c'est pas que je suis contre le fait que non, c'est pas bon, il faut pas tout changer là. Non, c'est que je me retrouve avec une autre chaîne, si tu veux. Voilà, c'est tout.
La deuxième partie de la réponse de Luc face aux détracteurs de son initiative, il explique simplement que beaucoup de podcasts francophones ne sont pas dans iTunes et que lui y est, produit un podcast toutes les 3 semaines, voire tous les mois. Alors moi, je trouvais ça plutôt intéressant comme initiative, justement, de proposer à d'autres podcasts de venir sur son feed. C'est un peu ce que je fais, mais moi, c'est une exception. Mais pourquoi ne pas faire profiter de son audience à d'autres podcasts francophones ? C'est aussi ça l'esprit du podcasting, c'est de pouvoir faire écouter d'autres choses que ce qu'on entend habituellement. Et pourquoi ne pas proposer d'autres podcasts à l'écoute, puisque iTunes rame un peu à faire venir d'autres podcasts francophones.
Ben, disons que moi j'étais pas du tout parti dans le fait de profiter justement de ce côté bénéfique d'iTunes. Moi, c'était pas du tout dans cet esprit-là. C'est que j'avais mon flux que j'aimais bien, et en gros, on me le change. Alors maintenant, si donc moi, j'étais pas du tout dans ce truc. Je fais profiter quelqu'un parce que je suis au-dessus. Moi, j'avais même pas pensé que c'est vrai qu'il était. Je sais même pas dans le top 20 où est son feed. J'étais pas du tout là-dedans.
Tout à l'heure, un de vous deux, je ne sais pas lequel a parlé d'Incipit, j'aurais trouvé. Alors que ce que fait Incipit n'est pas ma tasse de thé. Il n'empêche que j'aurais trouvé que si Podcast France, qui ne fait rien de sa quatrième place, plutôt que de bouchonner comme ça, aurait proposé à Incipit depuis le début de dire bah tiens, nous, on va reprendre simplement, surtout que techniquement, c'est trop rien. Il suffit de reprendre l'URL, de faire une fausse note, un faux nouveau poste avec l'URL du fichier d'origine. Donc vraiment, il n'y a pas de boulot derrière. Hein, de lui dire bah tiens, nous, on va sur notre fil. Balader tes fichiers en mettant en tête de titres de trucs un site blog, ce que j'avais fait moi, mais des titres des trucs qu'on voit dans iTunes, ça s'appelle Melting Pod, sur ceux qui concernent Melting Pod, j'aurais trouvé ça plutôt intelligent, ça aurait permis à des gens de découvrir ce que fait un site qui est un truc plutôt original par rapport à ce que fait tout le monde. Alors on peut aimer ou pas aimer, là encore une fois, le gars il essaye, ça lui plaît pas, ben la fois il se désinscrit, mais au moins de découvrir un truc, alors que là, il y a sans doute pas mal de gens qui vont passer à côté, c'est un peu dommage quoi.
Je reconnais que c'est vrai que bon, j'ai découvert le podcast d'Annie, c'est vrai. Bon, après, personnellement, il ne m'intéresse pas.
Voilà, non, mais ça, je comprends. Alors, ça, en revanche, c'est pas une. Mais je veux dire par là que c'est pas une garantie de qualité. Je dis simplement
que tout à fait.
Il y a des gens qui font des choses. Il y a une fenêtre de tir plutôt étroite, mais ce qui modère tout ce que je viens de dire, c'est que cet après-midi, je regardais, parce qu'en fait, je ne l'ai jamais fait ça, les sites des uns et des autres, et je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme différence entre ce que fait Olivier, ce que fait Pom 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 et ce que je fais moi, c'est que eux deux, ils font des fils son, c'est tout. Moi, mon site, qui existe depuis un certain nombre d'années, il diffuse du texte en masse. Alors vraiment en masse. Et le son, c'est un des supports parmi d'autres. Et quand j'aurai le temps et les sous, il y aura de la vidéo également et d'autres trucs. C'est une espèce d'ensemble que je voudrais multimédia à terme, comme ça, où il y a de tout dedans. Et ce qui c'est marrant, parce que ça a beaucoup surpris cette histoire. Je trouve un peu amusant cette histoire des liens d'Annie dans mon feed, parce que en ce qui concerne les textes, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Moi, j'ai même une rubrique dans mon weblog qui s'appelle Vue d'ailleurs, dans laquelle il n'y a que des textes qui ne sont pas de moi, mais que j'ai publiés parce que j'ai trouvé sympa, intéressant, un titre ou un autre, certains que j'ai traduit. Alors je suis allé courir après le mec qui l'avait écrit, lui demander son autorisation, c'est pas toujours simple, pour pouvoir le diffuser. Et jamais, alors c'est marrant ça, parce que jamais personne ne m'a jamais fait la moindre remarque en me disant « Oh bah alors, entre deux trucs de toi, on veut passer un texte de machin », jamais. Au contraire, les réactions avaient été plutôt positives, en appréciant le côté ouverture vers d'autres gens, parce que ça sert un peu à ça pour moi, mon blog, si c'est pour faire une statue, ce que j'avais écrit dans mon commentaire, si c'est pour faire une statue avec moi en haut, c'est un intérêt vachement moyen quand même. C'est un intérêt vachement moyen. L'intérêt de la manœuvre, il me semble, c'est de faire partager aux gens qui viennent des choses qui me semblent d'intérêt à moi, mais pas me faire partager moi, mais des choses qui m'intéressent. Et cette démarche que j'avais eue pour le son, elle s'inscrit tout à fait là-dedans. Il s'est trouvé que ça a focalisé sur Annie, parce que c'est la seule qui en a bénéficié. Mais un Tipeee ne serait pas du tout, je crois qu'il y est maintenant, mais il ne serait pas arrivé, il m'aurait demandé à faire pareil. Entre deux fichiers de ma pomme, il y aurait eu une musique d'Annie et une lecture d'un Tipeee. Pour ça, j'ai pas de complexe là-dessus.
Ouais, mais d'un autre côté, Luc, quand on lit ton blog, on est peut-être plus actif que quand on écoute un podcast où on est une position plus passive. Et dans ces cas-là, on peut zapper un texte qui nous plaît pas.
Ah ben oui, mais ça, moi, oui. Ça, c'était un peu la discussion que j'avais avec Julien là, dans ces deux numéros en arrière de France Podcast. Moi, j'espère bien que les utilisateurs de ces fichiers-là, ils seront pas plus passés massifs que ceux qui lisent des trucs. Ça, le, pour l'instant, ils le sont parce que c'est le départ, puis c'est pas naturel d'appeler un site web, on le fait pas naturellement, etc. Mais je compte bien qu'à terme, ça soit aussi interactif que le texte. Sans ça, ça ne sert à rien. Enfin, pour moi, ça me paraît une exigence enfin, incontournable, mais vraiment incontournable, là.
Oui, je viens juste d'avoir une idée. En fait, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et alors, il y a, désolé, ça, c'est quelque chose qui existe déjà, mais qui n'existe pas du moins en France. Il y a le Pathfinder de Adam Curry. Vous savez ce que c'est,
oui.
C'est le, il propose de poser des. Donc, c'est un canal où on peut mettre des promos, entre autres, de plusieurs podcasts. Et pourquoi on pourrait en faire
un audio comme en arc, ouais.
Disons que c'est, si tu veux, c'est une extension de ton fil, Luc, où on pourrait en fait poser n'importe quoi. Ou bien, enfin, je sais pas, moi, c'est une idée qui me vient juste là maintenant. Hein. Parce que c'est un peu ça en fait. Si tu proposes à des gens, Luc, de venir et puis de proposer le podcast carrément.
En arrière-plan de tout ça, je crois par ailleurs, sans en discuter par écrit interposé, que l'idée aujourd'hui d'une fidélisation sur des choses régulières, c'est une idée qui me fait presque sourire. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas parce que les gens qui utilisent Internet, c'est les gens qui zappent. Ils retiennent jusqu'à maintenant, peut-être que ça va changer, j'en sais rien, mais jusqu'à maintenant, c'est des gens qui zappent, qui retiennent des grands principes, mais qui ne viennent pas pour retrouver tout le temps la même chose. Il n'y a pas d'exemple, enfin je ne connais pas en tous les cas, d'exemple qui fonctionne de systèmes sur Internet où on retrouve tout le temps la même chose. C'est vraiment, j'en connais pas. Et ça, je crois que se figer comme ça au tout début, par exemple, tiens, pour prendre le site d'Olivier, je pense que si ce qui en ressort, c'est que Olivier fait des commentaires sur Bordeaux, il est mort. Si, en revanche, il en ressort que Olivier, c'est un type qui enregistre des trucs sur des humeurs de balades, de voyages ou de choses comme ça, alors là, en revanche, ça peut intéresser plein de gens. Il y a des gens qui seront intéressés un jour, pas l'autre, parce que l'endroit dont ils parlent, ça leur plaît, je sais pas, ça leur plaît pas ou ça leur fait rien. Et puis qui reviendront, et puis qui repartiront, qui reviendront et qui repartiront. Je crois pas du tout à la fidélisation par la photocopie. Ça marche pas. Alors moi, je viens de la presse papier. Ça marche, la presse papier en meurt d'ailleurs. Prenez tous les canards, prenez un numéro de n'importe quel canard papier, puis vous prenez trois numéros plus loin, il est rigoureusement identique. Les titres ont changé, un peu les textes, et encore, on pourrait en discuter. Mais ils sont tous rigoureusement identiques, la presse meurt de ça, mais bon, elle n'a pas encore trouvé de solution alternative. Mais je ne connais pas d'exemple qui fonctionne, même sur des supports électroniques. Alors, surtout dans un domaine qui est complètement nouveau. Aujourd'hui, on est en plein dans l'effet de mode. On serait en train d'avoir cette discussion, je ne sais pas, en 2007. Alors là, peut-être effectivement qu'on aurait peut-être un peu de recul sur la manière dont les gens consomment, entre guillemets, ce genre de choses. Pardon, je vais tousser, non, même pas. Mais là, tout de suite, on a actuellement un truc qui a démarré il y a en gros un an, qui est populaire depuis trois semaines, et dont on n'a pas la moindre idée de à quoi ressemblent les gens qui l'écoutent, sachant qu'ils sont probablement au bureau en semi-vacances et donc qu'ils ont un temps fou. Est-ce qu'en septembre, par exemple, ils seront toujours là? J'en sais rien. Et est-ce que je crois pas, en revanche, que le fait de leur dire « toutes les semaines tu retrouves la même chose », ça va les faire revenir. Sur Internet, ça me paraît contradictoire, quoi. Enfin, voilà. J'ai me semble être une erreur marketing de base.
Donc, pour toi, fidéliser des gens en proposant un produit tout le temps le même, ce n'est pas une solution. Ça n'existe pas.
Ben, la presse en ligne, c'est planté. Hein. Faut bien voir qu'aujourd'hui, la presse en ligne, ça n'existe pas. Les seuls sites qui gagnent un peu de sous, c'est des sites qui s'appuient sur des groupes de presse, enfin des équipes de presse papier. Donc les presse en ligne qui vit, et elle n'est pas très nombreuse, elle vit parce que les équipes sont salariées des journaux papier qui, eux, perdent du pognon. Je connais pas d'exemple de presse en ligne bien portante, à une ou deux exceptions près, dans les domaines informatiques, il y a des sites du genre Adwa Hardware, RFR, Tom's Hardware et compagnie, et qui précisément ne servent pas tout le temps la même chose. C'est des sites qui sont autour d'une grande idée, alors l'idée étant l'informatique au sens large, et un jour tu vas avoir, je sais pas quoi, un test de disque dur, et puis la semaine d'après, bah, ça va être, je sais pas quoi, l'aventure de l'écran plat, le machin, ils sont autour d'une thématique globale, mais c'est pas des choses qui sont photocopiées de numéro en numéro. D'ailleurs, la régularité d'Internet, ça se marie assez mal, parce que les gens, je pense pas qu'ils viennent régulièrement sur Internet comme on vient régulièrement lire un journal. On sait que c'est toutes les semaines ou tous les mois ou tous les etc. etc. Enfin, ça, c'est mon point de vue à moi que j'ai. Si jamais j'ai raison, je vous demanderai de vous en souvenir. Si j'ai tort, personne ne s'en souviendra, donc c'est l'avantage des grands avis.
En tout cas, Luc, je te remercie beaucoup pour tes conseils, parce que moi, je suis un tout nouveau au niveau, information, rédaction et tout ça. Donc tout ce que tu dis, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même important. Même si je ne suis pas forcément toujours d'accord, je le note. Après, je verrai ce que...
Il faut pas être toujours d'accord avec moi, c'est pas bon signe, ça. Hein.
Pardon ?
Il faut pas toujours être d'accord avec moi, c'est pas bon signe.
Oui, non, c'est pour ça. Mais donc il y a des choses. Je retiens ce que tu dis. Je vais peut-être, tu verras dans les, si tu écoutes les prochains podcasts. Je sais pas si t'es abonné. Peut-être que je changerai mon fusil d'épaule. Enfin, je sais pas. Il va évoluer, c'est sûr. Après cette discussion, il y a pas de problème. Hein. C'est le but d'ailleurs, ce serait bête de rester après sur sa position.
C'est pas bon d'être d'accord avec Luc, hein. Luc ça va plus.
Ouais, mais moi j'en ai plus, je suis vieux moi.
Ouais, non, mais ça doit être pour ça, maintenant que tu vieillis, les gens t'écoutent, tu es devenu le sage du podcasting.
Attends, ouais, non, mais c'est vrai, moi je suis vieux, c'est pas pareil. Non, mais je veux dire par là que Internet, je baigne dedans depuis, ça va faire 10 ans maintenant, et des moments où on s'est dit « putain, ça y est, on tient un truc qui va marcher, etc. etc. », j'en ai vu passer alors un paquet. Alors, c'est peut-être aussi ce qui explique mon côté un peu désabusé et sceptique, que peut-être qu'il est faux, peut-être qu'il va se trouver que effectivement l'histoire du son, c'est vraiment le truc qui va tout tuer, j'en sais rien. Hein. Mais je crois qu'il faut... Enfin, voir ça plus que comme une expérience que comme un truc arrêté. Arrêter tout maintenant, arrêter des principes maintenant, ça me paraît pas judicieux, quoi. On n'a pas des auditeurs finaux, ils sont en version bêta, nos auditeurs. On n'a pas des productions finales, elles sont en version alpha, nos productions. Et les moyens de diffusion, pour l'instant, on ne sait même pas s'ils vont rester tels qu'ils sont. Donc ça fait vraiment plein de bonnes raisons de rester en éveil, d'essayer des trucs, de voir comment ça réagit. C'est pour ça que moi, je suis convaincu qu'il faut pousser ces enfoirés d'auditeurs à réagir. Je sais pas, peut-être les menacer, peut-être qu'il faudrait, je sais pas, aller de temps en temps leur crever les pneus, ou je sais pas. Mais voilà.
Virtuellement, voilà. Bien sûr.
Même pas, non, faudrait repérer les mecs qui ont des baladeurs dans les oreilles, surveiller leur bagnole, leur crever les pneus, leur mettre un post-it sur le pare-brise, un truc comme ça. Si tu téléphones pas à tel numéro, on recommence. Un truc dans ce coup-là, enfin, il y a peut-être des opérations commando à monter. Quoi.
Alors Luc, j'en profite que tu es là pour te demander officiellement de dire que ton avocat, il y a eu un message dans le répondeur du Podmax, ce n'était pas ton avocat.
Alors effectivement, le service financier du Podmag m'a versé une bonne partie des 212 milliards 413 que j'avais demandé. Donc je vais peut-être, mais enfin c'est pas encore arrêté, hein, mais peut-être arrêter les poursuites. Enfin, je pense que on s'était mis d'accord pour un règlement plusieurs fois du solde, donc peut-être ça va s'arranger.
Ah non, mais alors là, Luc, vraiment c'est une catastrophe ce que tu viens de me faire. J'ai déjà reçu plusieurs mails pour me dire que c'était scandaleux cette initiative. Mais alors tu m'arranges pas là.
Excellent.
Ah ben bon, alors au moins dis à ton avocat de rentrer chez lui. Ça va m'aider parce que j'en peux plus moi de dire que c'est pas vrai.
Sur ça, je vais dire à mon avocat de rentrer à la maison alors. Promis.
Merci Luc pour ton intervention et puis à bientôt.
Allez. Bonsoir tous les deux.
Bonsoir Luc.
Olivier, merci d'avoir participé au Podmag.
Ben, de rien, merci à toi aussi. C'était bien sympa.
On peut écouter Carte Postale 2 depuis iTunes directement ou en prenant ton feed sur ton site, Carte Postale 2. Je te remercie encore et à bientôt.
À bientôt. Bye bye.
Voilà, le Podmag numéro 9 est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la 10e édition du Podmag avec une invitée exceptionnelle. Il s'agit d'Annie de Melting Pod, justement, on en a parlé tout à l'heure. Elle sera notre invitée la semaine prochaine. N'oubliez pas également de voter pour notre podcasteur national, le podcasteur Bertrand Lenotte, qui est le seul francophone qui concourt pour le Podcast Awards. Alors n'hésitez pas à voter pour lui, il faut voter avant le 31 juillet. Alors soyez nombreux, c'est notre représentant. Si vous désirez réagir à ce que vous venez d'entendre ou à tout autre sujet sur le podcasting, n'hésitez pas à téléphoner au répondeur du PodMag. Le numéro depuis la France, c'est le 08 70 44 88 13. Depuis l'étranger, au 00 33 870 44 88 13. Ou tout simplement en appelant France Podcast tout attaché depuis Skype. Vous pouvez également m'envoyer un mail. L'adresse du mail est sur mon site francepodcast.viabloga.com. Merci d'être toujours plus nombreux à m'écouter. Et en attendant, n'oubliez pas, podcastez bien.